C'est avec une joie non dissimulée que je rejoins les ondes en ce beau mercredi 20 janvier 2016. Ah oui, cher auditeur, si tu as l'ouïe particulièrement physionomiste, tu sais que j'ai déjà sévi en ces lieux et que j'ai commis deux billets d'humeur ici même, ainsi qu'un focus actu. Oui, après t'avoir parlé d'inspiration, après t'avoir confié mes pensées au sujet de l'amour et après avoir partagé avec toi ma modeste vision au sujet de la loi qui prorogeait l'état d'urgence, je me devais de dépasser le monde éthéré, sublime et céleste des concepts et des notions. Difficile pour un doctorant de dépasser ce monde des concepts et des notions. Dans l'esprit du jeune chercheur, légèrement enfermé dans sa thèse, c'est un peu comme sortir du village dans les nuages pour aller à Sin City, ou sortir de son labo de recherche pour être parachuté au Vietnam aux côtés du capitaine Villard. C'est dangereux, c'est gris, ça sent le tabac froid, le napalm et l'alcool. Mais soit, ne nous enfermons pas dans le beau monde de l'imagination, ouvrons-nous à des considérations plus triviales ou plus pragmatiques. Car oui, cher auditeur, aujourd'hui je vais enfin entrer dans le vif du sujet. Ce soir, nous allons parler de vulgarisation scientifique. La vulgarisation scientifique, ce n'est pas l'utilisation de la science pour faire des jeux de mots douteux. Par exemple, pour un doctorant en sciences de la vie, ce n'est pas lever son verre en hurlant « atavisme » pour porter un toast au futur d'un ami. Pour un jeune chercheur en philosophie, ça ne consistera pas non plus à dire « c'est poétique » si on lui dit que la bienfaisance est un vice de l'orgueil plutôt qu'une véritable vertu de l'âme. Pour un doctorat en droit, enfin, la vulgarisation scientifique ne se limite pas à la réalisation d'une étude sur le nu propriétaire en espérant voir des parties suffisamment conséquentes portées sur la question de la jouissance du bien. Non, la vulgarisation scientifique, c'est l'adaptation du discours dans une science donnée pour le rendre plus accessible à un auditeur ou un lecteur non spécialiste. Ambitieux projet s'il en est. Pour répondre à des questions telles que la raison de la prolifération du nucléaire en Corée, le sens de l'écriture chorégraphique dans les textes poétiques, le nom à donner à une invention ou le sens de la peine privative de liberté, il faut s'entourer de spécialistes capables de parler simplement d'un sujet qu'ils ont pourtant abordé dans toute leur complexité. Ceux qui autour de cette table ont dispensé des travaux dirigés ou des travaux pratiques savent, comme moi, combien le public non spécialisé peut s'avérer complexe à intéresser, voire distrait dès lors qu'un avion, un nuage, un flocon de neige ou un papillon passent à proximité plus ou moins directe de la fenêtre. Poussant parfois leur raisonnement dans d'obscurs recoins, mais poussant bien plus souvent de profonds soupirs, les profanes méritent pourtant d'avoir un accès à la science. Oui, la vulgarisation scientifique, c'est comme apprendre à lire à un footballeur, c'est nécessaire même si ce n'est pas facile. Le chercheur qui s'enferme seul dans sa connaissance scientifique et n'en partage jamais les fruits sera tristement monochrome. Alors ami doctorant, toi aussi, participe à la grande salade de fruits en apportant ta petite pierre à l'édifice. Ne sois plus seul et gris, mais viens vulgariser ta science pour rêver ta vie en couleur. Il paraît que c'est le secret du bonheur.
Bonjour à toutes et à tous, Barbara sur Radio Campus pour l'émission Quoi de Neuf Doc, l'émission de l'association Doc Tauvergne. Vous venez d'écouter le brillant billet d'humeur de Lucille Gély, doctorante en droit public au Centre Michel de l'Hôpital, qui, comme elle vous l'a dit, devient presque une habituée de l'émission et qui aime toujours autant Sin City, on a pu le remarquer, hein, je crois qu'elle tient à le mettre dans ses billets d'humeur. En tout cas, elle a fait une jolie présentation de ce qu'est la vulgarisation et ce qui est aussi l'enjeu de cette émission de radio. Donc si de nombreux invités reviennent régulièrement dans l'émission, je suis ravie aussi d'en accueillir des nouveaux. Aujourd'hui, une nouvelle venue, qui n'était encore jamais passée par ce chemin de la radio, Marine Doucet, doctorante en sciences politiques au Centre Michel de l'Hôpital, qui débattra avec nous des essais nucléaires en Corée du Nord et de leur impact sur les relations internationales. Il s'agit, vous l'avez sans doute deviné, du Focus Actu. Juste après, nous retrouverons une chronique du Hot Doc. Camille Rouillon n'est pas là pour l'animer, étant parti vers d'autres horizons, mais Xavier Badan, doctorant en géographie sociale à l'Université Blaise Pascal, qui est intervenu aussi de manière récurrente dans l'émission, a décidé de reprendre cette chronique avant de lui aussi s'exiler. Il est accompagné de Marie Guichetot, également doctorante en géographie sociale, et ils nous parleront de la lourde responsabilité qui pèse sur les chercheurs, nommer leurs découvertes et leurs inventions. Ensuite, comme lors de chaque émission, un doctorant clermontois, aujourd'hui une doctorante clermontoise, viendra présenter son parcours et ses travaux de recherche. Ce soir, ce sera Marion Clavillier, doctorante en littérature comparée à l'Université Blaise Pascal, qui tentera de répondre aux questions d'Arthur Chassagnol lors du traditionnel 8 minutes avec. Enfin, Nicolas Duraca se dévoilera un peu plus encore que les semaines précédentes. Ce soir, dans sa chronique « Fait de beaux rêves doc », consacrée à l'utopie, il nous parle de quelqu'un qu'il connaît, je pense, particulièrement bien. Non, nous n'apprendrons pas qu'il connaît quelqu'un célèbre, il nous parle simplement de lui et de l'utopie de la recherche actuelle. Joli programme comme toujours et je vous remercie tous d'être présents ce soir, que ce soit en studio, en technique ou derrière votre poste de radio, votre ordinateur ou encore votre smartphone, pour les plus motivés. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec un sujet d'actualité plutôt brûlant, pour ne pas dire dangereux, place au Focus Actu.
Okay, Ronnie, I'm ready to start motion station forward.
Doctorants et docteurs voient l'actu.
We think that the NTA is out of the trust, so you can relax a little bit with it.
C'est Focus Actu.
Hey, for you guys, take one moment and look at the overhead windows on Discovery.
Bonsoir Marine.
Bonsoir tout le monde.
Je suis ravie de t'accueillir pour ce Focus Actu. Alors peut-être pourrais-tu commencer par une brève présentation de la situation actuelle par rapport à la Corée du Nord et le nucléaire.
Oui, tout à fait. Donc le 6 janvier dernier, la Corée du Nord annonçait avoir procédé avec succès à l'explosion d'une bombe H, plus communément appelée bombe à hydrogène ou bombe thermonucléaire. Bien que cette déclaration ne peut pas encore être vérifiée, il s'agirait du premier test de cette bombe effectué par le régime nord-coréen après avoir déjà effectué 3 essais de la bombe atomique depuis 2006. Cette annonce a provoqué une condamnation unanime de la part de la communauté internationale, puisque si cet essai était confirmé, la Corée du Nord pourrait rejoindre le rang des puissances nucléaires, ce qui pourrait mettre à mal la sécurité internationale. Pour autant, la problématique nord-coréenne n'est pas nouvelle. Cet essai nucléaire sert simplement à rappeler l'urgence de la situation. Le principal facteur d'explication à la crise actuelle est que le développement d'un arsenal nucléaire par la Corée du Nord constitue un moyen politique, lui permettant à la fois de contrer sa paranoïa de sécurité et de faire pression sur la communauté internationale par l'intermédiaire d'une politique de chantage. Cela peut se comprendre à la lumière d'éléments externes et internes au régime nord-coréen.
Est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur ces différents éléments, externes comme internes ?
Oui. Donc, concernant les éléments externes, internationaux, le régime nord-coréen est très perméable aux menaces et aux pressions extérieures, ce qui l'enferme dans une logique sécuritaire. En effet, le pays reste persuadé que les États-Unis, par l'intermédiaire de la Corée du Sud, veulent l'éradiquer de la carte, et ce, compte tenu des pressions militaires, économiques et diplomatiques exercées par Washington. Plusieurs phases de négociations ont été entreprises entre les deux États, mais c'est toujours la même logique. Ils négocient, trouvent un accord ou un semblant d'accord. Les États-Unis accentuent leur pression et la Corée du Nord surréagit, soit en déclarant vouloir continuer à développer leur arsenal nucléaire, soit en opérant, clairement, des essais nucléaires. Le seul moyen ou les seuls moyens pour apaiser les tensions serait que les États-Unis s'engagent sur le long terme à ne pas intervenir militairement ou à ne pas déstabiliser le régime et que la Corée du Nord cesse sa politique de chantage. La menace nucléaire apparaît donc comme une stratégie de survie afin d'obliger les États-Unis à s'installer à la table des négociations. En outre, les essais nucléaires lancés par la Corée du Nord peuvent également s'expliquer par la nécessité qu'a Pyongyang de démontrer sa puissance et sa capacité de nuisance à l'ensemble de la communauté internationale. Concernant les éléments internes, tout d'abord, la Corée du Nord est soumise à de fortes contraintes économiques. Si au cours de la guerre froide, elle a pu profiter de l'aide de l'URSS et de la Chine, à partir des années 90, cette aide s'est progressivement estompée. De plus, la Corée du Nord est en proie à de nombreuses catastrophes naturelles, ce qui provoque d'énormes pénuries alimentaires. Même si l'économie nord-coréenne se porte mieux actuellement, le pays reste dépendant de l'aide alimentaire internationale et use de l'argument nucléaire pour se faire entendre sur la scène mondiale. La même logique se retrouve d'ailleurs dans le domaine énergétique. Par ailleurs, il est très important de souligner les circonstances dans lesquelles sont prises les décisions de politique étrangère. Dans un État tel que la Corée du Nord, la décision émane d'un cercle très fermé, composé de quelques personnes, au contraire des régimes pluralistes et démocratiques, lesquels s'entourent de conseillers vérifiant et équilibrant les décisions politiques. Ainsi, cette petite élite politique est beaucoup plus sensible à l'environnement sécuritaire, ce qui la rend paranoïaque vis-à-vis des potentielles menaces extérieures. Le développement d'un arsenal nucléaire permet donc à la Corée du Nord de contrecarrer cette psychose. Dernier élément interne, cet essai nucléaire et son annonce viennent renforcer le prestige du pays, mais également du leader, en l'occurrence Kim Jong-un.
Alors, merci pour cette présentation déjà des différents facteurs qui amène à s'interroger sur le nucléaire en Corée. Peut-être rapidement, avant de lancer le débat, est-ce que tu pourrais tracer un petit peu le trait des conséquences de ces agissements et des tests nucléaires en Corée ?
Alors, oui,
même si les experts sont divisés quant aux réels moyens nucléaires de la Corée du Nord, la menace nord-coréenne n'en reste pas moins sérieuse pour la stabilité de la région. En effet, l'Asie du Nord-Est connaît un regain de tension ces dernières années, compte tenu de la situation entre les deux Corées, bien évidemment, des conflits territoriaux entre la Chine et le Japon, et l'affrontement masqué que se vouent la Chine et les États-Unis par État interposé. De ce fait, les principaux États de la région, Japon, Corée du Sud et Chine, ont augmenté leurs dépenses militaires pour faire face à ces nombreuses menaces. C'est ce que l'on appelle en sciences politiques le dilemme de sécurité, à savoir l'augmentation des moyens militaires dans une perspective proprement défensive. Or, tout renforcement de capacité militaire d'un État va être perçu par les autres comme une menace potentielle offensive. Donc l'essai nucléaire du 6 janvier dernier pourrait donc venir accentuer cette logique et aboutir à une escalade des tensions. Par conséquent, la question des essais nucléaires opérés par la Corée du Nord et plus généralement du développement de ces engins nucléaires est particulièrement complexe et problématique et ne se réduit sûrement pas à l'équation Corée du Nord égale État voyou, notamment au vu des nombreux intérêts qu'ont les uns et les autres dans la région. Pour autant, il faut quand même rester conscient de la dangerosité du régime de Pyongyang.
Bah merci pour toutes ces informations. Peut-être une première question, peut-être très générale. Je ne suis pas du tout spécialiste de la matière, mais quels sont les États qui disposent aujourd'hui de la bombe nucléaire ? Parce qu'on parle beaucoup de la Corée du Nord, mais on se doute que ce n'est pas le seul pays qui a cette bombe-là.
Alors, la bombe nucléaire, en premier lieu, est détenue donc par les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine et la Russie. Et en plus, on peut citer quelques États qui ont pu développer l'arme nucléaire par la suite, enfin après le traité de non-prolifération nucléaire signé en 1968 par une très grande majorité d'États, que sont donc le Pakistan et l'Inde, dont les tensions sont au maximum en ce moment. Donc les deux pays possèdent l'arme nucléaire. Voilà.
Oui, donc ça, c'est un nombre quand même assez restreint d'États qui posséderaient le nucléaire, d'où l'importance de la détention du nucléaire par la Corée du Nord aujourd'hui.
Oui, on sait que le nucléaire est une force de dissuasion encore très pertinente à l'heure actuelle, même si elle tend évidemment à s'amenuiser, puisqu'on peut quand même constater une certaine prolifération du nucléaire, notamment au regard par exemple du dossier nucléaire iranien, ou sur la Corée du Nord.
Alors moi j'ai une petite question peut-être naïve, mais donc la question c'est de savoir est-ce qu'ils possèdent l'arme nucléaire et qu'ils peuvent en user du coup comme arme d'intimidation au vu de d'autres pays. Mais tu nous as dit qu'ils avaient déjà effectué des essais nucléaires de bombes atomiques avant, donc est-ce qu'on n'était pas déjà au courant qu'ils possédaient l'arme nucléaire et qu'est-ce que ce nouvel essai apporte vraiment en plus sur notre connaissance de cette menace possible.
Alors, faut savoir que déjà le régime de Pyongyang, donc le régime de Corée du Nord, est très opaque, donc il est très difficile pour les experts et spécialistes à l'échelle internationale d'être vraiment fixés sur la menace nucléaire nord-coréenne. Donc effectivement, il y a déjà eu 3 essais nucléaires de la bombe atomique, donc la bombe A, donc effectuée en 2006, 2009 et 2013. Il faut savoir aussi que la Corée du Nord a commencé à lancer son programme nucléaire militaire dès la fin des années 80, début des années 90. Donc en fait, vraiment, les experts sont divisés. Certains spécialistes considèrent que la Corée du Nord n'a pas les moyens de développer la bombe H, d'autant qu'aucun autre pays a réussi à concevoir cet engin après si peu d'essais nucléaires. De plus, les engins nord-coréens s'avèrent rustiques et peuvent donc être interceptés. Donc en frappant de manière préventive, parce que c'est ça que le régime nord-coréen prévoit, ou en tout cas... Mais en avant, le régime prend le risque de voir son missile intercepté et pire encore d'une riposte nucléaire. Surtout qu'en plus une frappe aéroportée n'est pas envisageable au regard du caractère obsolète de l'aviation nord-coréenne. Cependant, d'autres experts pensent que la Corée du Nord dit vrai et qu'à partir du moment où elle aura les capacités de miniaturiser ses bombes, elle possédera une capacité de dissuasion nucléaire. Donc en gros, en fait, je ne peux pas répondre à ta question parce que au final... il est très difficile à l'heure actuelle de jauger la menace nucléaire nord-coréenne. Donc, il faut quand même s'y préparer tout en la relativisant, d'après l'avis des experts.
D'accord. C'est le fait qu'il y ait un essai nucléaire n'est pas synonyme de « il maîtrise la bombe nucléaire ».
Non, absolument
pas. Ça augmente les chances de...
Oui, voilà, surtout que la bombe H, donc la bombe à hydrogène, en fait, doit être miniaturisée comme toute bombe atomique, enfin nucléaire en tout cas, pour être utilisable. Si elle n'est pas miniaturisée, elle ne peut pas être utilisée.
D'accord, je te fais confiance pour les points techniques.
Non.
Tu peux peut-être une petite différence sur les deux types de bombes qui ont été essayées ? Non, en termes de conséquences en tout cas, parce que j'ai l'impression que la bombe nucléaire... La bombe H fait beaucoup plus peur que la bombe atomique classique.
Alors oui, elle fait peur, mais comme à chaque fois que la Corée du Nord a réalisé un essai nucléaire, ça fait peur. De toute manière, c'est une bombe nucléaire. Après, pour les questions techniques, je ne pourrais pas te répondre. Mais en tout cas, à partir du moment où on sait qu'un État a réalisé un essai nucléaire, ça fait peur. Donc il y a une menace.
Du coup, est-ce qu'on a des exemples du vrai intérêt du coup d'avoir cette arme nucléaire pour vraiment pouvoir l'utiliser comme un moyen de pression? Est-ce que finalement ce surarmement qui se crée de différents côtés, mais où au final il n'y a jamais vraiment d'utilisation de cette bombe-là, c'est des trucs autour de la théorie de l'armement et que ben, plus on est armé, plus finalement ça crée des situations de statu quo un peu comme ça. Qu'est-ce que tu penses vraiment de l'utilité de ce genre de menace et de... Est-ce qu'il y a vraiment un effet très concret sur les négociations, etc., le fait d'avoir cette menace-là, ou est-ce que finalement, c'est juste, ça crée un réarmement en face sans vraiment d'autres conséquences? Enfin, je ne sais pas les différents exemples qu'il peut y avoir, même dans le monde, sur les influences concrètes du fait de pouvoir avoir la bombe nucléaire.
Alors, c'est justement tout l'enjeu de la problématique sur la menace nucléaire nord-coréenne, parce que, en fait, dès les années 2000, la Corée du Nord s'est rendu compte que, en développant un arsenal militaire nucléaire, elle pouvait opter pour une politique de chantage par rapport à la communauté internationale, notamment par rapport à l'aide alimentaire internationale, par rapport à ses importations de pétrole. Et elle sait, en fait, qu'elle peut jouer avec les grandes puissances, et notamment les États-Unis, avec ces menaces. Et d'ailleurs, en 2012, Washington et Pyongyang ont réalisé un accord où les États-Unis s'engageaient à livrer 240 000 tonnes d'aide alimentaire à la Corée du Nord pour 2013, si cette dernière arrêtait ses activités nucléaires. Donc on voit quand même qu'au final, la Corée du Nord fait une politique de chantage qu'elle assume totalement et qui, mine de rien, fonctionne. Alors évidemment, c'est un sujet très sensible et très dangereux, mais... On voit qu'au final, à chaque fois qu'elle menace, qu'elle brandit le développement de son programme nucléaire, les autres réagissent en lui fournissant notamment de l'aide alimentaire.
D'accord, on accorde vraiment une crédibilité à l'utilisation possible de cette bombe. C'est pas juste une histoire d'image pour la population de dire ben non, on va pas prendre le risque. Est-ce qu'on pense vraiment qu'il y a une crédibilité à utiliser ça? Enfin, je dis pas que t'as forcément la réponse, mais c'est vrai que ça me paraît quand même
Il faut vraiment avoir à l'idée que le régime nord-coréen est opaque. Donc, en fait, on ne sait pas ce qui s'y passe. On ne sait pas la rationalité des décisions qui sont prises, puisque comme elles sont prises par un groupe vraiment très restreint, on peut vraiment tomber dans l'irrationnel très rapidement. Et est-ce que les autres pays voisins et les États-Unis sont prêts à risquer le fait que la Corée du Nord puisse un jour utiliser une bombe nucléaire?
Alors là, on voit les intérêts, en tout cas pour la Corée du Nord, de posséder le nucléaire. Est-ce qu'il y a d'autres États qui ont intérêt à ce que le nucléaire se développe en Corée du Nord ?
Alors oui, il faut encore relativiser sur cette question. C'est la question primordiale sur cette crise, et d'ailleurs sur toutes les crises ou tous les conflits internationaux. Il faut se poser la question des intérêts. Donc déjà, premier jalon, il faut avoir en tête que la Corée du Nord possède des gisements d'uranium. Donc l'uranium, c'est ce qui est à la base de toute installation et arme nucléaire. Donc ceci étant dit, commençons par le Japon. Oui, le Japon a certains intérêts à ce que la menace nord-coréenne soit brandie de cette manière-là, puisque le gouvernement dirigé par le conservateur Shinzo Abe a augmenté les dépenses militaires des forces d'autodéfense ces dernières années en raison de la menace chinoise, s'agissant des îles Senkaku, et de la menace nord-coréenne. Le budget militaire japonais en 2015 s'élevait à 36 milliards d'euros. Bon, à partir de ce moment-là, il faut vraiment se remettre dans le contexte de la constitution japonaise, qui fait référence notamment à l'article 9, qui interdit au Japon de mener une guerre et de maintenir une force armée. Et cette politique de remilitarisation donc remet en cause cet article et donc remet en cause la stabilité de la région. Donc ce dernier essai nord-coréen et la menace nord-coréenne assoit et légitime cette politique de remilitarisation, surtout qu'il se pourrait qu'au vu de la menace nord-coréenne, le Japon, en coopération avec les États-Unis, s'équipe d'un dispositif de défense antimissile balistique très performant. Donc, le Japon a intérêt à brandir la menace nord-coréenne pour augmenter ses dépenses militaires. Et on voit très bien apparaître donc l'objectif de puissance que poursuit tout État sur la scène internationale, même si en apparence, évidemment, ce sont des objectifs seulement défensifs. Après, il y a la Corée du Sud, évidemment, qui a quelques intérêts, mais bon, je marche sur des œufs en disant ça, puisque il serait probable que l'actuelle présidente de la Corée du Sud manipulerait la question nord-coréenne pour des intérêts de politique intérieure. Mais j'ai trouvé très peu de choses là-dessus, donc je préfère ne pas m'y aventurer. Et sinon, pour ce qui est de la Chine, la menace nord-coréenne appuie clairement ses intérêts militaires. Depuis quelques années, la Chine, tout comme le Japon d'ailleurs, augmente ses dépenses militaires et modernise ses forces armées en raison des différends territoriaux avec ses voisins et également de la menace nord-coréenne. Donc ce nouvel essai pourrait conforter Pékin dans la poursuite de cette politique et donc accentuer le risque de déstabilisation de la région, surtout si on met en avant l'affrontement masqué qui se passe dans cette région avec les États-Unis. Donc effectivement, il y a d'énormes intérêts.
Merci beaucoup Marine pour toutes ces informations. Je t'aurais bien demandé les solutions pour l'avenir, mais malheureusement on n'a pas le temps, donc je vais être frustrée, les auditeurs aussi. Tant pis, ce sera l'occasion de revenir éventuellement. Et je vous propose de faire une petite pause après toutes ces informations et d'écouter un titre entraînant choisi par Marine, des Yemen Blues. Il arrive.
طلعت الجبال كان الجبال الكبير الجبال الكبير طلعت الجبال كان الجبال الكبير الجبال الكبير فوق الجبل الصغير قباله بصرت من اليمن فوق الجبل الصغير قباله بصرت من اليمن بتقول لي سلام كان دلم لامان مفصرت ولا شي ربي قالي من دحلين أنت وحدك أنت وحدك ربي قالي من دحلين أنت وحدك وحدك فوق الجبل الصغير قباله بصرت من عالي أمان يا لا ولا فوق الجبل الصغير قباله بصرت من عالي أمان بتقول لي سلام كان دلم لامان مفصرت ولا شي صرت ولا شي
Vous êtes sur Radio Campus au 93.3. N'éteignez surtout pas votre radio. C'est l'émission Quoi de Neuf Doc, l'émission grâce à laquelle vous en saurez toujours plus sur les sujets les plus divers. Soyez curieux et restez avec nous. Vous venez d'écouter la musique entraînante de Yemen Blues, Oumina Yaman, avec ma superbe prononciation. J'espère que cela vous aura mis un peu de baume au cœur après un sujet aussi complexe que le nucléaire en Corée du Nord. Pour continuer sur une thématique plus sympathique et peut-être un petit peu plus rigolote, accueillons Xavier et Marie pour un duo de doc assez cocasse.
En balayant le site internet de l'Institut de recherche de l'aquarium Monterey Bay, j'ai remarqué que Stephanie Bush, une post-doctorante en biologie, avait proposé de nommer une pieuvre appartenant à l'espèce Opisthotetis en fonction de son aspect mignon, ou adorabilis en latin. Il faut dire qu'en biologie, ce sont entre 16 000 et 18 000 nouvelles espèces qui sont découvertes chaque année par les scientifiques. La taxinomie, ou l'art de décrire les organismes vivants, utilise une méthode internationale pour nommer une espèce nouvelle. Le nom en latin d'un être vivant se divise en deux parties. On dit qu'il est binomial. Si le premier nom, le nom générique, répond à un code international assez cadré, le second, l'épithète spécifique, est un nom plus libre pour désigner l'espèce concernée. L'épithète peut être un qualificatif, comme adorabilis pour la pieuvre, ou un nom vernaculaire, comme domesticus pour le moineau domestique, ou un nom de lieu, ou enfin un nom de personne. C'est comme ça que l'on peut observer des Bernard l'ermite Michael Jackson, ou encore le sombre Anophthalmus hitleri, un coléoptère de quelques millimètres de long vivant en Slovénie dans des grottes humides. Lorsque les chercheurs ne sont pas tentés par des noms de personnes réelles, alors ils puisent dans l'imaginaire collectif. On retrouve alors des espèces dont les noms sont dédiés aux héros de films tels que les araignées Quasimodo, Terminator ou Pinocchio. Ou encore, pour rester dans l'actualité cinématographique, un acarien, Darth Vaderum, rendant hommage à l'un des plus grands méchants de l'univers de la saga Star Wars, Dark Vador. À en voir les vidéos internet, force est de constater que l'Opisthotetis adorabilis pourrait faire fondre même le cœur de la Reine des Neiges. Mais avant de me sentir délivré ou libéré de ma réflexion, je me suis demandé si le fait qu'une espèce aussi adorable soit-elle méritait qu'on lui colle un qualificatif de ce genre en guise de nom. Plus généralement, comment les chercheurs pouvaient être amenés à nommer leur découverte et surtout, quel impact le nom d'un objet, d'un lieu ou d'un être vivant pouvait-elle avoir sur la société. Sentant l'explosion de cerveau arriver à grands pas, j'ai préféré prendre les devants en invitant une doctorante en géographie, Marie Guichetot, dont le travail sur la manière dont les éleveurs vivent leur rapport à la nature dans un contexte de sensibilité croissante à l'environnement va pouvoir nous éclairer. Marie, alors dis-moi, à ton avis, pourquoi nommer les choses ?
Eh bien Xavier, j'écoutais il y a quelques mois un reportage sur un peuple d'Amérique du Sud, les Kogi. Et une remarque de l'un d'entre eux m'a marqué. Il disait qu'il est important de nommer les choses, car cela réveille l'esprit qui est en elle. Que peut bien vouloir dire cette phrase mystérieuse ? Observons un instant ce qui nous entoure. Nos sens captent une réalité désordonnée, tissée d'un patchwork de couleurs, d'un cafouillis de sons. Si nous ne pouvions pas nommer les éléments qui composent notre réel, nous serions débordés par ce chaos et tout se mélangerait. Au milieu de ce chaos, nommer les choses permet avant tout de leur donner une limite apparente. J'aime me dire que le mot enveloppe l'objet, qu'il l'étreint, pour le révéler à nos sens de manière intelligible. C'est là que la démarche scientifique trouve son utilité. Embrasser le réel, dans sa diversité, pour le comprendre, l'ordonner, et ainsi aider l'homme à situer sa place dans le monde. Telle est la tâche réservée aux chercheurs. Les géographes savent par exemple que les noms donnés aux lieux n'ont rien d'anodin. Ce sont des indices précieux qui renseignent sur l'histoire et les originalités du territoire. Pour les habitants, les noms servent de repères identitaires et transportent avec eux une réalité sensible, tissée d'expériences et d'anecdotes bien concrètes qui font sens pour la communauté. Car nommer une chose, c'est surtout créer un lieu de partage, un lieu de rencontre que l'on ouvre à la discussion. En science, la formulation de concepts permet l'enrichissement de ceux-ci par la communauté scientifique, qui se rassemblent autour d'un mot pour discuter de toutes les réalités auxquelles il renvoie. Qu'en penses-tu, Xavier ? Les mots transpirent-ils le fonctionnement de notre société ?
L'homme perçoit un objet en fonction de sa sensibilité et de son expérience face à cet objet. La pomme, par exemple, fait appel à une définition qui nous est propre. Des pommes acides, des pommes trop mûres, le goût malencontreux de notre premier verre découvert dans une pomme, ou encore le sentiment d'épanouissement total lorsque cette dite pomme est lancée avec force pour venir s'éclater sur la porte du voisin. Seulement, au moment où l'on commence à discuter de l'objet avec d'autres personnes, alors notre perception se mélange avec l'image que la société exerce sur l'objet en question. L'objet se charge de symboles. Dans la société, la pomme n'est plus une simple pomme, mais devient par exemple cadeau de Dionysos à Aphrodite, symbolisant l'amour dans la mythologie grecque. Pomme de jouvence immortelle dans la mythologie nordique, fruit de l'interdit dans la religion chrétienne, ou encore la carte de visite du fabricant Steve Jobs pour sa compagnie Apple. La pomme finit également par définir un lieu, la Big Apple, qui n'est d'autre que la ville de Manhattan. À ce moment, le mot tient toute son importance puisque son interprétation en société peut être l'objet de malentendus ou de complicités, de quiproquos ou d'éclaircissements. Elle peut être la source d'apaisement ou l'objet de conflits. Des proches disaient « L'humour est le plus court chemin entre une pomme à un autre. » Entre un homme à un autre. D'un homme à un autre, excusez-moi. Trop de pommes dans l'histoire. On peut donc dire que le mot et ses multiples définitions sociales forment le fer de lance des humoristes qui n'hésitent pas à surfer sur ses limites pour surprendre l'auditeur dans le but de le faire réagir, sinon rire. Mais dans la recherche, les mots ont-ils une limite, Marion ?
Et ça me renvoie à une autre question. Suffit-il de nommer une chose pour la connaître ? Pas si sûr. Les chercheurs sont habitués à manier des concepts pour faire avancer leurs réflexions. Ils se comprennent entre eux. Les géographes, par exemple, discutent de la notion de territoire. Et même s'ils ne sont pas toujours d'accord, ils ont élaboré un cadre de pensée qui leur est propre. Pour la discipline, tout l'enjeu consiste alors à ne pas se replier sur elle-même et à rester ouverte aux idées formulées par d'autres champs de recherche, même si les mots utilisés ne sont pas les mêmes. Les limites des noms sont encore plus flagrantes lorsque le chercheur s'intéresse au vécu, individuel ou collectif des populations. À quoi lui sert alors son beau vocabulaire ? La difficulté pour lui consiste à déposer le jargon technique ou scientifique derrière lequel il est habitué à se cacher pour entrer en vraie communication avec son interlocuteur. L'écoute nécessite un effort préalable de déconstruction de ses normes de référence. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte lors de mon travail auprès des éleveurs de la vallée d'Ossau que j'interrogeais sur l'évolution des liens qui les unissent avec la nature au quotidien. Je me suis heurtée au langage comme à une barrière qui m'empêchait de sentir le réel. Comment mettre en mots ce qui relève d'un vécu sensible que seules les pratiques quotidiennes permettent d'approcher ? Un penseur asiatique disait à juste titre « Tout ce qui est dit sur la nature n'est déjà plus la nature. » Dans mon cas, j'ai beaucoup appris en observant les éleveurs pendant la traite ou la fabrication du fromage. Lorsqu'on est aux côtés de l'éleveur en action, assis dessus un simple parpaing, au cœur de la montagne, la réalité du métier devient palpable. Pas la peine alors de s'éterniser en explications théoriques. C'est le concret qui s'exprime. Les phrases se dissipent peu à peu, les mots s'effacent pendant que le geste se déploie, les silences se remplissent de sens. Le nom ne peut donc remplacer l'expérience qui suppose une implication du corps physique et émotionnel. Selon la manière dont on l'utilise, un mot peut être ouvert sur l'extérieur ou replié sur lui-même. Il peut aussi bien révéler l'essence d'une chose que la trahir. Il peut soit faire jaillir un vécu sensible ou soit le tarir. Ainsi, ce pouvoir de nommer les choses nous met tous face à notre responsabilité de créateur. Que nous le voulions ou non, nous nous inscrivons alors dans une postérité.
Alors, souhaitons-nous laisser des traces de notre passage avec ce que l'on nomme ?
Les noms de lieux ?
Les noms d'espèces vivantes ?
Les noms de découvertes ?
Tous ces noms trouvés et donnés par des personnes, acceptés par la société et qui, utilisés au quotidien, finissent par devenir un automatisme pour finalement rester sur Terre après notre passage.
Nous vous invitons à méditer sur une abyssale question. Ces noms, que cherchent-ils à nous dire de nous-mêmes ?
Et si la science ne s'était contentée que de trouver les noms des choses sans rien inventer du tout ?
Et si toute inspiration géniale était cachée dans le mot lui-même ? D'où vient cette énergie créatrice qui porte les inventions et qui, une fois nommée, peut s'apprivoiser pour extraire le fonctionnement d'un objet, d'un théorème, d'un environnement ?
Et si le plus grand pouvoir de l'homme résidait dans cette capacité à nommer les choses et donc à leur donner un sens commun ?
Et si les noms d'aujourd'hui dessinaient le monde des hommes de demain ?
Et si le nom était le symbole contemporain de l'éternité ?
Et c'est sur cette panoplie vertigineuse de si, et accompagnée de la musique Riverside de d'Agnès Obel, que nous vous laissons ruminer cette chronique de Duo de Doc.
D'entendre la douce musique de la belle Agnès Obel Riverside après avoir la douce chronique du Hot Doc. Vous êtes sur Radio Campus pour l'émission Quoi de Neuf Doc. Il est 18h39. L'heure d'en apprendre un petit peu plus sur les recherches qui se passent près de chez vous. C'est le 8 minutes avec.
Bonjour à tous, nous voici dans le 8 minutes avec Marion aujourd'hui et nous allons parler de danse et de poésie pour suivre la dernière chronique très, très entraînante de ce duo de doc. Donc Marion, bonjour.
Bonjour.
Donc Marion travaille sur le mouvement dansant dans le texte poétique au 20e et 21e siècle, l'écriture chorégraphique de Valentin Parnac, William Carlos Williams, Jackson Maclow et Dominique Fourcade. Alors, je vais te demander de nous présenter un petit peu ce sujet de thèse et les liens que tu fais, du coup, entre la danse et la poésie à travers tes recherches.
Oui, bien sûr. Donc, dans ma thèse, en fait, je cherche à mettre en évidence les similitudes structurelles de la danse et de la poésie du début du XXe siècle au début du XXIe siècle. Donc, mon but est de montrer que la poésie moderne et contemporaine emprunte ses ressources à l'art chorégraphique et se modèle sur lui. Au XXe et au XXIe siècle, un nœud unit le langage et le geste. Ce nœud, pousse les poètes à s'inspirer de la danse pour créer une matière nouvelle, parce qu'ils puisent dans l'art chorégraphique des techniques et des modes de composition innovants. Je fais donc l'hypothèse que la danse au XXe siècle aurait un temps d'avance sur la poésie et que c'est pour cette raison que la poésie s'en inspire. Je vois aussi que cette relation de la danse au texte est réversible. La poésie peut s'inspirer de la danse, mais le texte peut aussi inciter des chorégraphes à créer une adaptation dansée à partir de celui-ci. Il y a donc une boucle rétroactive de la danse au texte et du texte à la danse. Et c'est précisément cette boucle que j'étudie, ce qui me permet d'affirmer que la danse est l'autre de la poésie tout au long du XXe siècle. Plus précisément, je cherche à voir en quoi les deux formes, donc poésie et danse, s'épousent et s'influencent d'un point de vue esthétique du modernisme au postmodernisme. Et donc pour ce faire, j'ai choisi de travailler à partir de l'œuvre de quatre auteurs, américains, français et russes, qui se sont intéressés à des formes très variées de danse, ce pour comprendre pourquoi les poètes ont été autant fascinés par cet art au XXe siècle.
D'accord, alors donc je trouve ça très intéressant. On va essayer de rentrer dans le détail, comprendre un petit peu ces liens qu'il peut y avoir. Parce que intuitivement, moi j'ai l'impression, le fait que la danse et la poésie soient liées, il y a quelque chose, il y a une musicalité et un rythme important dans les deux. Donc j'ai l'impression qu'il y a des composantes de chacune de ces deux formes d'expression qui sont similaires. Et donc ça me paraît assez naturel ce lien-là. Donc qu'est-ce qui fait sa particularité à partir du 20 et du 21e siècle et par les exemples des auteurs que tu étudies qui fait qu'il y a un lien plus profond que ce naturel lié à la forme d'expression, j'ai l'impression en tout cas, de la danse et de la poésie.
Oui, alors tout d'abord, c'est vrai que ce lien existe, mais il n'a pas vraiment été étudié aujourd'hui. C'est pour ça que je me lance dans ces recherches. La poésie a beaucoup été étudiée par rapport à la musique, par rapport à la picturalité, mais pas tellement par rapport à la danse. Donc en fait, il faut savoir que depuis la fin du 19e siècle, où les formes poétiques anciennes ont été renouvelées, parce que c'est à cette époque qu'apparaît le vers libre et que naît la poésie spatialisée, le texte poétique est conçu comme une dynamique. Les poètes de mon corpus ont été très influencés par le principe de la spatialisation du texte poétique introduit par Mallarmé. À cette époque, Mallarmé ne dispose pas les mots sur la page en strophe de façon linéaire, comme pouvaient le faire ses prédécesseurs. Il disloque le vers par des retours à la ligne, et éparpille les mots à la surface de la feuille, de sorte que le texte donne l'impression d'être mis en mouvement sur la page, par une sorte de dialectique entre le blanc et les mots. Pour Mallarmé, les mots sont en quelque sorte les équivalents de danseurs, tandis que la page s'apparente à une scène chorégraphique. En fait, Mallarmé joue sur ce qu'il appelle l'espacement de la lecture, dans un texte qui date de 1897, qui s'intitule « Un coup de dé, jamais n'abolira le hasard ». C'est une conception qui a beaucoup influencé la poésie au XXe siècle et je vois comment elle est réinvestie dans les textes de mon corpus. Donc du coup, il y a cette dimension chorégraphique à ce niveau-là.
D'accord, notamment. Alors j'aimerais qu'on aborde maintenant donc, certains des auteurs de ton corpus et que tu nous parles un petit peu de leur lien justement à la danse et à la poésie et de ce lien, enfin de cette double influence entre leur casquette de poète et leur casquette de chorégraphe pour certains ou leurs différents liens avec la danse.
Oui, tout à fait. Donc, les auteurs que j'ai choisis appartiennent à des périodes très différentes, mais jalonnent un petit peu tout le XXe siècle. Donc, j'ai un premier auteur qui est un auteur russe. Donc, tu as dit que son nom se prononçait Parnak, mais en fait, il faut dire Parnar.
D'accord, désolé.
Désolé. Donc, il est né, donc juste quelques mots sur cet auteur. Il est né en 1891. Il est décédé en 1951. Et c'est un poète qui a vécu à Paris de 1916 jusqu'au début des années 20. Il s'est intéressé de près à l'art chorégraphique. Il a consacré de nombreux articles à la danse, ainsi qu'un essai théorique écrit en français qui s'intitule « Histoire de la danse », où il retrace dans les grandes lignes l'évolution de cet art en Occident, de l'Antiquité au début du XXe siècle. Et justement, il a publié un certain nombre de recueils poétiques où la danse apparaît comme un élément central. Et sa particularité, c'est qu'il est à la fois poète et chorégraphe. C'est-à-dire qu'il a conçu des numéros de danse qui étaient joués dans les cabarets, et c'était lui qui les interprétait. Et donc, c'est des danses très, très modernes, des danses des machines, des danses faites de bonds, de ruptures d'énergie, de sauts, et c'est un élément qu'on retrouve dans ses poèmes. Donc j'étudie un petit peu la présence de la danse en comparant ses chorégraphies, enfin, les traces qu'il en a laissées dans ses partitions, dans ses écrits, avec la danse telle qu'elle apparaît dans ses poèmes.
D'accord. Alors, moi, il y a une petite question que je me pose. C'est vraiment en tant qu'observateur extérieur de tout sujet de thèse, tu choisis quatre auteurs qui ont tous un lien plus ou moins direct avec la danse, chorégraphe, où ils sont intéressés à cet art-là, et tu montres que chez ces quatre personnes, donc la façon dont leur lien avec la danse influence leur écriture poétique. Est-ce que, du coup, d'en déduire que l'écriture poétique au XXe et XXIe siècle s'inspire de la danse, est-ce que c'est pas... Enfin, je me demande à quel point tu te focalises vraiment sur quatre auteurs, ou à quel point, là, je trouve intéressant, du coup, que tu parles de Mallarmé, qui pour moi justifierait, du coup, que ce soit un peu plus large, mais je me demande s'il n'y a pas un biais à prendre ceux qui sont influencés par la danse de base, et du coup, la danse se retrouve dans leur texte poétique. Enfin, je sais pas, c'est pas une question piège et tout, je sais pas ce que tu penses de ce genre de raisonnement, en tout cas...
Alors déjà, je ne prétends pas tirer des conséquences sur la poésie et la danse au XXe siècle, hein. Sinon ce serait une thèse monstrueuse, toute une vie.
Bien sûr.
Donc en fait, en littérature comparée, on a une approche très concrète, c'est-à-dire qu'on travaille à partir d'un corpus. Donc toutes les conclusions que je vais tirer, je les prends à partir de mon corpus et elles valent pour mon corpus. Bien sûr, elles servent à démontrer un certain nombre de caractéristiques qui valent pour la poésie moderne et la poésie contemporaine, mais je prétends pas généraliser ça à l'infini. C'est comme les géographes avec leur terrain. Nous, les littéraires, on a toujours notre corpus. Donc voilà. Donc,
je suis bien d'accord. Bah, c'est généraliste pas juste voilà, pour mettre des mots sur justement le fonctionnement de cette littérature comparée. Et je trouve ça intéressant. Et on va s'arrêter là-dessus parce que le temps passe très vite. Ça fait 8 minutes. Et donc, je vais lancer la musique choisie par Marion. C'est « Elle me dit » de Mika. Merci Marion.
Merci.
Hey! Écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, ne t'enferme pas dans ta chambre, vas-y, secoue-toi et tente, dis-moi c'est quoi ton problème. Elle me dit, qu'est-ce que t'as l'air coincé, t'es défoncé ou t'es gay, tu finiras comme ton frère.
La littérature et aimer aussi Elle me dit de Mika, la chanson que vous venez juste d'entendre, choisie par Marion. C'est tout l'intérêt de cette émission, de montrer que la recherche n'est pas réalisée que par des personnes enfermées au fond des bibliothèques et qui ne sortiraient pas de leurs livres. D'ailleurs, le bruit qu'il y avait en fond montre justement toute l'interactivité qui peut exister pendant une émission qui réunit des chercheurs de tous bords. Alors, on a parlé beaucoup de recherche aujourd'hui, et justement, la recherche, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? J'imagine que ce sont des questions auxquelles Nicolas Duraca va tenter de répondre dans la chronique qui arrive, Fait de beaux rêves, Doc.
To join with you today, one day, this nation will rise up, live out the true meaning of its dream. I have a dream.
Fait de beaux rêves, Doc.
Eh bien, bonsoir à tous. Il est 18h50, nous sommes mercredi, oui, on est mercredi, et il y a quelques minutes de ça, j'ai mis un point final à une première version, je vous rassure, de ma thèse, que j'ai débuté il y a 2 ans et 4 mois, quelque chose comme ça. Et pour une chronique sur l'utopie...
Nous, on a tous le seum en studio. Hein, ça...
Alors, justement, je vais y venir à ce point-là, même si ça vous laisse perplexe, et moi aussi, je l'avoue. 2 ans et 4 mois, vous allez dire, c'est très court. Et effectivement, en termes d'utopie, c'est quelque chose qui peut être imaginé comme très court. Tout dépend de la relation au temps que l'on a. Et c'est la question que je voudrais poser aujourd'hui, c'est en tant que chercheur, quelle relation au temps nous avons et comment nous nous projetons dans le temps. C'est 2 questions que j'aimerais aborder avec vous. Et puisqu'on a reçu un mail de Barbara il n'y a pas très longtemps, nous disant « Menons des chroniques avec un peu plus d'interactivité », je suis venu sans rien et je me suis dit que j'allais poser des questions et interagir avec vous sur ces questions-là. Alors oui, 2 ans et 4 mois, c'est très court, parce que justement, on est, permettez-moi l'expression, pressé comme des citrons. On fait 96 heures de cours, on fait des séminaires, on fait des colloques, on fait des articles dans toutes les langues, et on écrit une thèse de 500 pages en moins de 3 ans. Et tout ça est, à mon avis, quelque chose qui est lié à l'appréhension qu'on a du temps, et l'appréhension qu'on a du temps dans la recherche. C'est-à-dire que finalement, je me pose la question, et vous allez peut-être pouvoir m'en dire un peu plus, où vous en êtes dans vos thèses? Est-ce que vous avez la sensation d'être pressé comme des citrons, comme j'ai le sentiment maintenant aujourd'hui? Et surtout, est-ce que, en tant que chercheur demain, si tant est qu'on ait la chance de l'être, on va continuer une carrière pressée comme des citrons ainsi et continuer à faire de la recherche en si peu de temps? Est-ce que quelqu'un aurait un avis là-dessus? S'il vous plaît, rassurez-moi.
Alors nous, on est pressé un petit peu moins vite, puisque pour ma part, j'en suis presque au double de 2 ans et 4 mois. Et je n'ai absolument pas fini, donc j'aurai dépassé le double des 2 ans et 4 mois lorsque je rendrai la première version de mon manuscrit, très probablement. Pressé peut-être, mais moins bien pressé finalement, en droit, je ne sais pas, pour mes voisines... Si elles ont un avis sur les longueurs de thèse en droit et en Sciences Po, mais je pense que c'est un peu la même chose.
Est-ce que c'est le cas en sciences dures? Peut-être qu'Arthur, en maths, tu pourrais me dire.
Moi, je suis un peu plus dans ton cas et je pense que dans une semaine, je pourrais pratiquement dire ce que tu viens de dire aussi sur une première version de la thèse. Mais je trouve que justement, c'est un moment où, ben voilà, en 2 ans et 4 mois, on a déjà un produit final qui peut être soutenu, mais en fait, c'est le moment où je me rends compte en rédigeant où j'ai pris le plus de recul sur mon sujet et où, en fait, les nouvelles idées fusent un peu dans tous les sens. Et il faut essayer de réprimer ses envies et de se concentrer sur la finalité de cette rédaction avant de pouvoir chercher tous ces trucs-là. Donc, je trouve qu'il y a cette contradiction, finalement. Ça arrive à un moment où on aurait envie, finalement, de continuer un peu la recherche et où il y a un recul sur le sujet qui s'installe. Donc il y a une gestion du temps qui est assez compliquée entre finir au plus vite cette thèse pour s'en débarrasser un peu et puis ouvrir les pistes de
recherche. Est-ce que la recherche, c'est de livrer un produit fini? Parce que ce que tu es en train de me dire, c'est que finalement, il faut produire quelque chose, le terminer, on sait que c'est pas abouti, on sait qu'il y a encore plein de choses à faire. Après, tu me diras, un doctorat, c'est le début d'une carrière scientifique, donc je veux bien l'accepter, mais on a une posture du coup de... On a un produit fini à livrer. Tant qu'on le fait, on rentre dans les clous. Et ça me dérange dans notre appréciation de la recherche actuelle.
Est-ce qu'un produit de recherche doit être fini? À mon avis, c'est la fin de la thèse, c'est plutôt rentrer dans la cour des débats, en fait. On publie sa thèse, on la rend publique pour justement entraîner les débats et puis enrichir sur des futures publications, une future carrière qui va nous permettre de continuer, alors soit dans ce domaine ou alors au contraire d'enrichir d'autres domaines que la thèse nous avait ouverts durant notre travail.
Et du coup, est-ce que c'est l'horizon de la recherche? Est-ce qu'il faut qu'on se place dans une posture de chercheur à temps long et imaginer que notre carrière sera et devra être mobilisée pour mener des recherches à temps long? Ou est-ce qu'on va répondre aux sollicitations universitaires classiques, aux articles et aux postes et à tout ce qu'on va nous demander de faire et à produire des choses très courtes et très rapides? Parce que est-ce qu'il n'y a pas une dimension utopique à imaginer que les choses vont s'étendre sur la longueur? Marion?
C'est Marine.
Marine, pardon.
Moi, cette thèse, ça fait seulement 1 an que je l'ai commencée, mais ce que j'ai pu observer, c'est que le fait d'être en thèse a changé mon regard sur le temps et m'a permis de comprendre que le temps, c'est celui qu'on emmène avec soi. Et bon, certes, on est pris par des contraintes, on doit répondre à une demande, mais la thèse, c'est le moment privilégié pour une personne de s'approprier le temps. et de se réserver, si elle en a besoin, des plages de disponibilité ou du temps libre pour maturer justement sa réflexion et faire le vide, voilà, faire le vide pour refaire le plein et cela en respectant son propre rythme. Et ça, je pense que c'est le choix de chaque chercheur aussi.
Moi, je m'accorde tout à fait à ce que tu dis. Et je pense que c'est très important qu'on soit vigilant à préserver ça. Néanmoins, si aujourd'hui, je termine une première version 2 ans et 4 mois, c'est parce que de toute façon, en 3 ans, la thèse devra être finie parce qu'on n'a absolument pas le choix sur les calendriers et on n'a pas le choix de tenir ce temps-là parce que c'est des questions de financement et des questions d'ouverture de postes et ainsi de suite. Et du coup, est-ce qu'on n'est pas en grand écart entre l'utopie de la recherche et est-ce qu'elle est réellement?
Moi, je trouve qu'effectivement, enfin, l'ensemble des contraintes administratives, de résultats, etc., qu'il peut y avoir autour de la recherche, ne sont pas les bonnes conditions vraiment du temps du chercheur. Enfin, sur le plan très personnel, c'est pour ça que je trouve que cette recherche doit s'effectuer sans toutes ces contraintes-là et peut-être plus que c'est plus à propos dans une passion le week-end, le soir. Bon, c'est sur un fonctionnement très personnel avec une autre activité professionnelle qui permettrait de vivre et que c'est une activité qui doit se faire sans contrainte. Pendant 3 semaines, on peut ne pas y toucher. Ça travaille tout seul dans un coin de la tête. Et pendant 1 semaine, on s'y met à fond parce que les choses arrivent. Et je trouve que cette liberté sur la recherche est assez importante et malheureusement est contrainte par les professions, maîtres de conf, professeurs qu'on a avec toutes les contraintes qui s'accumulent. Mais...
Ben merci d'avoir participé à cette petite discussion qui me fait du bien. C'est ma psychanalyse du soir sur l'utopie de la recherche actuelle et sur la projection de la recherche. J'invite tous ceux qui auraient envie d'en discuter avec nous à nous joindre à l'association d'Octovergne afin de continuer à discuter de cette question du temps et notamment autour du concours Ma thèse en 180 secondes. Et en ce qui concerne ma thèse à moi, elle est en train de se finir. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le morceau de The Doors, de Jim Morrison, qui dit « When the music over, turn off the light ».
Alors merci pour cette chronique. Et puis ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on est en retard, comme régulièrement, on conclura l'émission en musique. Donc juste avant, je tenais à tous vous remercier d'être venus en studio aujourd'hui, à tous de nous avoir écoutés. Et je voulais vous rappeler, pour ceux qui souhaitent réécouter l'émission, que vous retrouvez toutes les informations sur le Facebook de Doctovergne, également tous les podcasts des émissions sur le site de la radio www.campus-clermont.net ou sur le site de Doctovergne www.doctovergne.fr. Je vous souhaite une belle soirée à tous et je vous dis à très vite. On se retrouve dès le 3 février prochain d'ailleurs pour une émission un petit peu spéciale, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. Bye bye en musique.
When the music's over, when the music's over, yeah. When the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. Music's over. When the music's over, when the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. Dance on fires, it intense. Music.
Until